Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Il y a 300 ans, donc, le 28 avril 1716, pas très loin d'ici, au village de Saint-Laurent-sur-Sèvre, le père de Montfort achevait sa course terrestre. Ce jeudi 28 avril sera donc le 300e anniversaire de cette mort bienheureuse, et certainement beaucoup d'entre vous auront à cœur durant l'année d'aller prier tout seul ou en famille sur la tombe de ce grand saint. Que lui demanderez-vous? Bien sûr, nous avons tous nos intentions personnelles, mais il est judicieux de lui demander très spécialement tout ce qui est lié à sa mission, car chaque saint a une mission à remplir, non pas seulement sur cette terre, mais jusqu'à la fin du monde, et donc aussi au ciel, jusqu'au jugement dernier. Autrement dit, Saint Louis-Marie, aujourd'hui au ciel, continue son ministère, on peut même dire qu'il continue sa prédication, et il s'intéresse de très près à la diffusion des grandes vérités sur lesquelles il a insisté ici-bas. S'il avait reçu sur cette terre la grâce de faire comprendre tel ou tel point de doctrine, il ne l'a pas perdu en arrivant là-haut, c'est bien évident. Il est même encore plus actif, encore plus efficace pour poursuivre son œuvre et sa mission jusqu'au dernier jour du monde. Saint Louis-Marie a reçu des grâces de lumière, non pas seulement pour lui, mais pour les autres, et on peut même dire pour toute l'Église. Et la première lumière qu'on peut et qu'on doit lui demander, c'est la lumière sur le baptême. En un sens, il ne prêchait que ça. La fidélité aux promesses du baptême. Il allait de paroisse en paroisse, il rassemblait la population pour leur parler, il les instruisait, il les confessait, il les faisait prier, mais il terminait toujours sa mission paroissiale en faisant renouveler solennellement les promesses du baptême. Aujourd'hui, ça ne paraît pas très original, parce que l'habitude s'est étendue. En France, il y a ce qu'on appelle la communion solennelle, où l'on renouvelle les promesses du baptême, et puis dans toute l'Église, depuis Pie XII, la cérémonie de la vigile pascale nous fait tous renouveler solennellement notre renonciation à Satan et notre adhésion à notre Seigneur Jésus-Christ. Au temps de Saint Louis-Marie, c'était différent. Cette pratique apparaissait comme une nouveauté, mais une nouveauté à la façon des saints, c'est-à-dire qu'ils savent puiser dans le trésor de l'Église pour nous faire redécouvrir, comme si c'était nouveau, des réalités qui sont éternelles. Bien sûr, le baptême est la base, le fondement de notre vie chrétienne, il n'y a rien de nouveau à cela. Mais nous avons régulièrement besoin de le redécouvrir, et ça fait partie des grâces de lumière que Saint Louis-Marie peut nous obtenir. Ne nous faisons pas trop d'illusions, au temps de Louis XIV comme aujourd'hui, on avait tendance à oublier le baptême. À cette époque-là, on rêvait facilement d'une sorte d'honnête homme qui serait dans le juste milieu, ni pervers, ni dévot, mais simplement conforme à la nature humaine, ni plus, ni moins. Et Saint Louis-Marie répond, c'est impossible. La nature humaine, la mienne, la vôtre, celle de tous les hommes, est abîmée par le péché et elle a besoin d'être réparée par le Sauveur, par Jésus-Christ. Et entre l'homme déchu en Adam et l'homme régénéré en notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas d'intermédiaire possible. C'est l'un ou l'autre. Il faut obligatoirement choisir. Soit on s'attache à Jésus-Christ en renonçant aux démons, soit on reste prisonnier du diable. Il n'y a pas de troisième voie. Et Saint Louis-Marie nous rappelle que nous sommes nés dans un temps de guerre. Cette guerre, elle a commencé au paradis terrestre et elle ne s'achèvera qu'à la fin du monde. Quand on est en temps de guerre, on est bien obligé de s'y accommoder. Eh bien, l'humanité ne peut pas échapper à cette guerre entre le démon et Dieu, qui veulent, chacun de leur côté, avoir la possession de l'homme. Pour notre bien, quand il s'agit de notre Créateur, le bon Dieu, et pour notre mal, quand il s'agit du démon. Le baptême nous permet donc d'échapper au diable pour rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ. Et il faut bien voir que ce n'est pas un simple rite de purification auquel il faudrait se soumettre pour être lavé une fois pour toutes. C'est bien plus que ça. Le baptême nous intègre à notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous greffe une vie nouvelle, une vie surnaturelle, la vie même de Dieu, et il faut à tout prix la garder pour ne pas retomber sous l'esclavage de Satan. Alors ce que je vous dis là, évidemment, je vous le dis de façon un peu théorique, Saint Louis-Marie avait l'art, la grâce, de le faire comprendre de façon très pratique. Et quand je dis « il avait », je ne devrais pas employer le passé, il l'a toujours, il suffit de lui demander. Mais attention, car ces leçons pratiques sont parfois assez sévères. Par exemple, pour faire comprendre cette vertu de charité que nous avons reçue au baptême et qui nous fait aimer les autres, non pas pour des motifs naturels, mais pour Dieu, il se présenta une fois, incognito, à l'abbaye de Fontevraud, où une de ses sœurs était religieuse, sous le nom de sœur Sylvie. À l'entrée, sans se nommer, il demande la charité pour l'amour de Dieu. Or, la sœur Tourière voulait bien faire l'aumône, mais elle voulait savoir à qui. Alors, elle multiplie les questions, et Saint Louis-Marie répète toujours le même refrain, « Je demande la charité pour l'amour de Dieu ». Au lieu de céder, la sœur Tourière appelle la mère abbesse. Et celle-ci, à son tour, commence à le harceler pour savoir d'où il vient, qui il est, où il va, etc. Et Saint Louis-Marie répond, « Madame, mon nom importe peu. Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'amour de Dieu que je vous demande la charité. » Les deux femmes se vexent, elles finissent par le chasser sans rien lui donner. Mais en partant, la sœur Tourière l'entend murmurer « Comme c'est dommage, si madame savait qui je suis, elle ne me refuserait pas ce qu'elle me refuse pour l'amour de Dieu. » Et cette simple petite phrase se répand dans tout le monastère où elle met beaucoup d'agitation. On se demande « Mais qu'est-ce qu'on a donc ainsi renvoyé ?» Et la sœur Sylvie a une lumière, elle dit « Ah ben ça doit être mon frère ». Et Saint Louis-Marie était déjà connu, il avait déjà une réputation de sainteté. Alors immédiatement, on expédie quelqu'un sur ses traces pour le prier de revenir, en lui promettant non seulement l'hospitalité, mais les excuses de la mère abbesse. Et Saint Louis-Marie veut poursuivre la leçon jusqu'au bout, il ne revient pas, il fait simplement rapporter cette réponse. « Madame l'abbesse n'a pas voulu me faire la charité pour l'amour de Dieu, à présent elle me l'offre pour moi-même, je la remercie. » La leçon était rude, Saint Louis-Marie savait être rude, mais contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ça n'était pas par tempérament. Les gens qui ont étudié de près son caractère disent que par nature, il était plutôt porté vers la vanité, vers la mondanité, le respect humain. Et loin d'être tenté de heurter les règles communes, il avait plutôt tendance à trop s'y soumettre dans le désir de plaire aux autres. Et ça n'est pas étonnant, car à quelques exceptions près, on ne naît pas saint, on le devient. Et cette conquête se fait par la croix. Et on arrive là à la deuxième grande lumière qu'on peut demander à Saint Louis-Marie, la lumière sur la croix dans notre vie. Bien sûr, en théorie, on sait tout ça. On sait que le baptême nous incorpore à Jésus-Christ et que notre victoire ne peut donc pas être différente de la victoire qu'a remportée Jésus-Christ par la croix. Mais c'est en pratique que les choses se gâtent et c'est là que les exemples et l'intercession de Saint Louis-Marie nous seront utiles. Dans sa fameuse lettre circulaire aux amis de la croix, il commente méthodiquement la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce soi-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. » Et Saint Louis-Marie insiste sur la condition de départ. « Si quelqu'un veut, si quelqu'un veut, tout dépend de la condition. Est-ce que vraiment nous voulons ?» Et Saint Louis-Marie, lui, a voulu. On a dit qu'il avait naturellement une tendance à la vanité, au respect humain. Il se renonça généreusement, n'hésitant pas à passer pour original ou excessif dans son amour de Dieu, foulant aux pieds ce sentiment naturel de honte, Il allait jusqu'à se jeter à genoux, les bras en croix, au milieu d'une danse où l'on offensait Dieu, et il entraînait ses dirigés sur le chemin pour fouler aux pieds tout respect humain, toute honte de faire le bien. Et surtout, il brava toutes sortes de contradictions et d'humiliations dans son ministère. On peut même dire qu'elle semblait lui courir après partout où il allait. Au terme d'une mission, prêcher dans une paroisse, il se faisait injurier en chair devant tous les paroissiens par le curé, ou bien il subissait de cuisants reproches de la part d'un envoyé de l'évêque, ou bien il se faisait chasser ignominieusement du diocèse sous la pression des jansénistes. Et toujours, il acceptait ces humiliations avec bon visage, parfois à genoux, tête baissée, sans le moindre signe d'indignation, d'impatience ou de surprise. Une fois, lorsqu'il reçut ce genre d'algarade, à la fin d'une mission, il se contenta de déclarer « Mes frères, nous nous disposions à planter une croix à la porte de cette église. Plantons-la au contraire dans notre cœur, elle y sera mieux que partout ailleurs. » Et on peut se demander comment arriver à une telle maîtrise de soi, une telle patience, une telle humilité face à de telles contradictions. Eh bien, Saint Louis-Marie dit lui-même qu'il a pour ça découvert un secret de grâce. Et c'est certainement la troisième lumière à lui demander. Ce secret, un secret qui aide à s'incorporer plus rapidement à Jésus-Christ et aussi à porter et à supporter la croix. Ce secret, c'est la vraie dévotion à la Sainte Vierge, dont Saint Louis-Marie s'est fait le docteur. Je ne développerai pas ce point aujourd'hui, notamment parce que justement, on arrive au mois de Marie, dont la fête de Saint Louis-Marie est comme le porche d'entrée, et que c'est une excellente occasion de lire ou de relire ce fameux traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. L'expérience prouve qu'on peut le relire plusieurs fois en y trouvant toujours son profit. On peut aussi lire des textes commentant plus ou moins ce traité, comme des textes faits par les Montfortins pour préparer, notamment le texte du Père Daillé, pour préparer à la consécration à la Sainte Vierge. Mais ne laissons pas passer cette fête de Saint Louis-Marie sans lui demander des lumières sur la Sainte Vierge. La Sainte Vierge qui, encore une fois, nous aide à porter la croix et nous aide à nous incorporer à Jésus-Christ. Et essayons de lui demander de mieux comprendre ces trois vérités. L'importance du baptême, notre baptême, qui nous rend membres de Jésus-Christ, qui nous fait échapper à Satan. L'importance donc de la fidélité aux promesses du baptême et par le fait même l'importance de la croix et pour cela l'importance de la très Sainte Vierge Marie. Prions pour nous, prions également pour la Sainte Église, il y a une magnifique prière de Saint Louis-Marie pour demander des vocations, on peut la réciter. Prions pour notre pays, la France, puisqu'il a également préparé dans ses régions de la Vendée militaire, par lui ou par ses missionnaires, les futurs combattants de la Vendée. Et puis, si vous voulez bien, il y a aussi une prière pour notre couvent, puisque vous savez qu'il était tertiaire dominicain, donc membre de la troisième partie de notre ordre. Pourquoi ? À cause de cette dévotion au rosaire qu'il avait, puis aussi d'une certaine ressemblance dans l'action apostolique. Il avait aussi été annoncé, prédit par un autre grand saint missionnaire, Saint Vincent Ferrier. Donc ne laissons pas passer la fête de Saint Louis-Marie, ni cette année du tricentenaire, sans demander abondamment et surabondamment toutes ses grâces par son intercession. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.